Bonjour, je suis Claude Gondard. J'ai fait une triple carrière en fait d'artiste et d'ingénieur. Je suis ingénieur de formation. J'ai toujours été enfant et puis ensuite adolescent attiré par la gravure. Mon père aimait les gravures, j'en ai toujours vu chez moi. Il m'a expliqué ce que c'était, quels étaient les artistes qui s'étaient illustrés dans cette discipline. J'ai essayé d'en faire enfant en autodidacte, et puis quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai rencontré un homme extraordinaire, Jacques Déret, prix de Rome de gravure, qui s'est intéressé à mes travaux et qui m'a vraiment donné accès à cette discipline absolument passionnante. En fait, la gravure, c'est à la fois un nom commun et puis un mot qui a des acceptions très précises qu'on ne connaît pas forcément. La gravure a joué dans notre civilisation un rôle absolument fondamental, permettant de véhiculer les images, permettant de véhiculer les idées, permettant de véhiculer les œuvres d'art, les créations des artistes qui, à partir de la Renaissance, ont pu rayonner ainsi dans toute l'Europe. On va distinguer deux sortes de gravures, deux formes de gravure. La gravure de reproduction qui est réalisée par des artisans, des artistes, à partir d'œuvres peintes par des maîtres. Ces travaux ont eu, comme je l'ai dit il y a un instant, une influence tout à fait déterminante sur la naissance de notre civilisation, permettant à toute l'intelligentsia européenne de la Renaissance et des siècles suivants de prendre connaissance des créations artistiques qui, effectivement, ne voyageaient pas autant qu'elles peuvent le faire aujourd'hui, et permettant donc d'accéder à un niveau à la culture, d'accéder à des œuvres très intéressantes, exceptionnelles. En réalité, la gravure d'imitation a plutôt été utilisée dans un premier temps en Italie, et puis également dans le monde germanique et en Flandre. Et puis l'autre forme de gravure, c'est la gravure originale, celle dont le motif est créé par le graveur lui-même. Alors la gravure originale, elle, est plutôt née dans le monde germanique, est plutôt née dans le monde flamand, et s'il y avait un nom à citer comme artiste extraordinaire qui a porté la gravure à la maturité, finalement quelques dizaines d'années après qu'elle soit apparue, c'est Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, j'ai eu l'occasion de le découvrir lorsque j'avais 14 ans. Ça a été une vraie révélation. Cet homme est extraordinaire. Il a tout inventé en matière de gravure. J'y reviendrai et je vous montrerai quelques exemples. Il y a eu donc des ateliers de gravure d'imitation très importants en Italie, et puis l'un de ceux que je voudrais citer, c'est Rubens qui avait une production foisonnante, qui avait un rôle de diplomate, qui avait besoin de faire connaître ses œuvres pour se trouver de nouveaux clients, et qui a entretenu un atelier de graveurs important. Il y a eu plusieurs dizaines de graveurs qui ont travaillé pour lui, des hommes souvent exceptionnellement doués, et parmi eux, je voudrais en particulier citer Anton van Dyck, qui a été un aquafortiste, un artiste maîtrisant l'eau-forte d'une façon tout à fait remarquable. La gravure est apparue au XVe siècle, la gravure sur bois au début du XVe siècle, et la gravure sur cuivre, sur métal, un peu plus tard, dans la seconde moitié du XVe siècle. La gravure sur bois, en fait, c'est un procédé tout simple, tout bête. Il consiste à prendre une belle planche, généralement une planche d'arbre fruitier, à dessiner le modèle que l'on veut reproduire, et puis avec des ciseaux, pratiquer ce qu'on appelle une taille d'épargne, c'est-à-dire creuser le bois de part et d'autre des zones qui doivent recevoir l'encre. Alors, la gravure sur bois, c'est un peu, je dirais, la gravure du pauvre. Elle présente un intérêt fondamental en ce sens que si on donne à la planche l'épaisseur des caractères d'imprimerie, les illustrations gravées sur bois peuvent être reproduites dans des ouvrages en une seule passe avec le texte des pages correspondantes. Contrairement à la gravure en taille douce, nous allons y venir, contrairement à la gravure en taille douce qui, elle, pour être reproduite dans des ouvrages, suppose un tirage indépendant du tirage de la typographie, et c'est donc plus onéreux. Mais la gravure sur bois présente un avantage quand la planche est convenablement taillée, de permettre un nombre de tirages presque illimité, alors que la taille douce, elle, ne permet de ne reproduire habituellement que quelques centaines d'épreuves d'une même planche. Donc, je vous disais, la gravure sur bois est apparue au début du XVe siècle. En fait, c'est pas tellement la technique qui est apparue. Je crois que ce qui est apparu, c'est surtout des supports sur lesquels on pouvait imprimer des images, le papier, la toile éventuellement. Les premiers bois que l'on connaisse ont été utilisés pour imprimer des motifs sur des nappes d'autel, par exemple. Et puis, quelques dizaines d'années après l'apparition de ces gravures, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dürer est apparu. Alors, Dürer ne dessinait les bois qu'il donnait à graver à des ateliers spécialisés. Il ne gravait pas les bois lui-même. Et c'était généralement le cas, c'était des artisans qui gravaient les bois pour le compte des artistes. Je voulais vous montrer un exemple, hein, parmi cent autres, les Cavaliers de l'Apocalypse, qui est une gravure tout à fait fabuleuse, une gravure sur bois de Dürer, qui fait partie de ses recueils. Dürer avait animé en quelque sorte une espèce de petite entreprise, et comme on en verra par la suite, comme on en verra en particulier au XVIIIe siècle, et il vendait ses gravures sur les marchés. Il allait faire la connaissance des autres graveurs qui avaient une bonne notoriété à son époque, et c'était vraiment un artiste européen. Voilà, sans vouloir vous faire un historique complet de la gravure, ce que je vais faire donc, c'est de vous parler de différents procédés. Nous allons commencer par celui qui est apparu à la fin du XVe siècle, après la gravure sur bois. Généralement, c'était dans des ateliers d'orfèvres où l'on connaissait le maniement des outils qui permettaient de ciseler le métal, de ciseler les bijoux. Et les premiers grands burinistes, les premiers grands artistes ayant travaillé au burin, étaient généralement issus de familles d'orfèvres. Alors, le principe est tout simple. Le burin, c'est une lame qui se termine par une pointe tranchante en biais. C'est un outil qui est particulièrement malcommode, que l'on passe sa vie à aiguiser. Ensuite, pour faire des courbes, eh bien, il faut amener la planche sous le burin. Ce n'est pas le burin qui dessine les courbes sur la planche. Et on passe vraiment sa vie à aiguiser cet instrument de malheur. Cela dit, bien utilisé, bien maîtrisé, il a donné des merveilles, et je voudrais vous faire partager mon émerveillement pour un certain nombre d'entre elles. Le premier artiste que je voudrais citer est Schongauer. Schongauer, c'est un artiste qui a vécu à Colmar, qui a beaucoup impressionné Dürer, qui a fait quelques années après la disparition de Schongauer le déplacement à Colmar pour un peu recueillir l'héritage spirituel de cet immense artiste. Et puis voici quelques gravures de Dürer. La célèbre Mélancolie, une gravure dont le sens profond nous échappe. Il y a beaucoup d'éléments ésotériques dans cette composition, mais quelle belle composition, quel magnifique travail. Adam et Ève aussi, une gravure très, très connue de Dürer. Adam et Ève qui apparaissent perdus là dans le paradis terrestre. en louchant vers le fruit défendu. Un autre artiste de la même époque que connaissait également Dürer, un flamand, c'est Lucas de Lède. Lucas de Lède qui avait une virtuosité dans le maniement du burin tout à fait remarquable. Et puis, plus près de nous, ben voici quelques exemples de travaux. Un travail d'un graveur qui s'appelait Josso, qui a travaillé dans les années 30. Ses travaux sont très, très typés, c'est bien le style de l'époque. Voici un bouquet de roses de Josso. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré, lorsque j'avais une vingtaine d'années, Jacques Déret. Jacques Déret, un graveur merveilleux, un très bon peintre également. Et voici, voici quelques gravures de Jacques Déret. Le conquérant, avec dominé par la croupe du cheval de Marc Aurèle. Une gravure cruelle et très expressive. Ensuite, un beau paysage des Pyrénées, toujours gravé à la pointe de son burin. Et puis, une épreuve de timbre, puisque la gravure a été utilisée, peut-être encore utilisée à notre époque, pour deux usages bien précis, c'est la gravure des timbres-poste. Malheureusement, il y en a de moins en moins qui utilisent ce procédé. Et puis, la gravure des billets de banque. On n'a pas trouvé mieux pour limiter la contrefaçon. D'autres artistes contemporains ont également fait œuvre de burinistes. Albert de Caris, par exemple, voici une magnifique vue de l'école polytechnique. Ou bien Molitz, qui a gravé des paysages oniriques et d'une grande complexité avec des personnages étonnants. Alors, la gravure au burin, la gravure en taille douce, on va utiliser ce terme de taille douce, c'est en gros la gravure au burin, ou bien par extension la gravure en creux, par opposition à la gravure sur bois, qui est un peu la gravure en relief. L'outil indispensable pour arriver à produire des tailles douces, c'est la presse. La presse, vous avez une magnifique gravure d'Abraham Boss qui montre un atelier de taille douce au XVIIe siècle. La presse, en fait, doit exercer une très forte pression sur la planche qui est coincée entre un lange, une étoffe de laine bien qui assure une bonne tenue de la planche, le plateau de la presse, et puis on met une feuille de papier mouillé humide sur la planche, et par-dessus à nouveau un lange, on règle bien l'écart entre les deux rouleaux de la presse, et là il faut y aller de bon cœur pour appuyer fortement sur la feuille qui va recevoir l'estampe, la gravure, de manière à ce qu'elle aille chercher au fond des tailles l'encre qu'on y a déposée. La pointe sèche, j'ai beaucoup parlé du burin, la pointe sèche est un procédé qui, dans son principe, n'est pas très éloigné du burin. Au lieu de tailler le métal avec une pointe très aiguisée, on dessine dessus, grosso modo, avec un crayon à mine d'acier. Il faut également, évidemment, que la mine soit parfaitement aiguisée. Mais si le principe est analogue, les effets que l'on obtient sont complètement différents, parce que selon que l'on laisse présent les barbes que l'on fait sortir des tailles lorsqu'on dessine avec la pointe, ou qu'on les gratte, qu'on les enlève avec un grattoir, eh bien, on a soit une impression très noire, une impression très marquée, très contrastée, ou bien, au contraire, des gris aussi fins, aussi ténus qu'on peut le souhaiter. Je vais vous citer, pour illustrer ce procédé, un artiste de la Belle Époque, Paul Helleu, qui a réalisé les belles de son temps avec ce procédé et qui a obtenu des résultats tout à fait exceptionnels, tout à fait remarquables, dont vous avez ici deux gravures, deux superbes pointes sèches de Paul Helleu. Plus près de nous, mon cher ami, mon camarade Dominique Beau a utilisé également ce procédé avec un rare talent et à son actif de très belles réussites. Voici par exemple un paysage des Charentes qu'il a fait naître avec sa pointe. Dali également a utilisé ce procédé et bien d'autres artistes. L'eau forte, aqua forte en latin de cuisine. L'eau forte, c'est un autre procédé très classique qui lui également a inspiré des artistes tout à fait remarquables. Le principe de l'eau forte est très simple, simplement au lieu de graver le métal directement comme avec un burin, là on le vernit, c'est une technique qui est assez délicate d'ailleurs, il faut avoir un vernis qui adhère bien à la planche, je vais y revenir. L'eau forte, donc, c'est un procédé qui consiste à placer sur la planche que l'on veut graver un vernis, à dessiner avec une pointe sur ce vernis, donc on dénude le métal à l'endroit du dessin, et puis ensuite on immerge la planche dans un acide qui va creuser le métal au droit des parties dessinées, là où le vernis, le métal a été dénudé. Alors, voici quelques images qui vous montrent comment on procède pour vernir une planche. La première chose, c'est qu'il faut parfaitement dégraisser la planche avec du vinaigre salé, avec du blanc de meudon en frottant bien, en rinçant soigneusement. Et puis ensuite, il y a d'excellents vernis au pinceau qui existent. Et autrement, le vernis classique, c'est un vernis en motte que l'on passe sur la planche que l'on a fait tiédir, chauffer un petit peu. Ensuite, avec une poupée, avec un tampon, on étale bien le vernis sur la planche. Et puis après, opération importante, on tient la planche en hauteur avec un étau à main et un rat-de-cave permet de noircir le vernis et ainsi on aura la possibilité de faire apparaître le dessin de façon plus lisible pour la suite du travail. Alors, là encore, vous avez des graveurs extraordinaires qui ont donné leur lettre de noblesse à ce procédé. Le premier d'entre eux est certainement Jacques Callot. Jacques Callot, assez curieusement d'ailleurs, ne s'intéressait pas à l'eau forte en tant que telle. Callot pensait plutôt au burin et aux réussites que l'on obtenait avec le burin. Et il a mis sur point un vernis suffisamment dur pour permettre de dessiner sur la planche des motifs extrêmement fins et d'avoir la délicatesse, la précision du burin. Et donc les gravures de Jacques Callot s'apparentent un peu à ce que l'on peut obtenir au burin. Voici quelques exemples de travaux de Jacques Callot, en particulier la foire de l'Imprunetta, où on est impressionné par les centaines de petits personnages qu'il arrive à faire vivre dans ses compositions, parfois très, très complexes. L'autre immense artiste qui s'est intéressé à l'eau forte, c'est Rembrandt. Rembrandt, c'est assez exceptionnel dans l'histoire de la gravure d'avoir un graveur d'un tel niveau qui était également un peintre de très très haut niveau. Il a su capter la spécificité de chacune des deux techniques et il a su porter la gravure à son sommet. Voici le Christ guérissant les malades, une gravure magnifique, peut-être la plus belle gravure tout court. Vous savez, dans cette composition très, très élaborée, vous avez les malades qui sont traités avec infiniment d'empathie sur la partie droite de la composition, qui émerge timidement de l'ombre. Et puis, à la droite du Christ, donc à gauche de la composition, vous avez au contraire les pharisiens qui sont debout, qui lui donnent des conseils, ils lui font des reproches, et qui, eux, sont traités par une esquisse un peu brutale en pleine lumière. Le contraste des deux donne une composition d'une valeur exceptionnelle. À côté de ça, Rembrandt savait utiliser sa pointe pour graver sur le vif un petit paysage comme le pont de Six que montre la gravure suivante, gravée, dit-on, pendant qu'il attendait son domestique qui était allé lui chercher de quoi se sustenter. J'avais parlé de Van Dyck tout à l'heure en évoquant l'atelier de reproduction du peintre Rubens. Voici un exemple de gravure signée Van Dyck. C'est une eau-forte. Alors là, c'est vraiment un artiste qui a parfaitement utilisé les ressources, les possibilités de l'eau-forte. Et puis ensuite, les gravures à l'eau-forte de Van Dyck étaient un peu massacrées au burin par les petites mains de l'atelier pour les terminer, pour leur donner l'aspect qu'on attendait d'œuvres de ce genre à l'époque. Un autre graveur qui s'est illustré dans le maniement de ce procédé de l'eau-forte, c'est Piranesi, Gian Battista Piranesi. Piranesi était un artiste exceptionnel qui, lui, a su animer, graver d'immenses planches. Et voici, par exemple, la Piazza Navone à Rome, et puis ces prisons d'invention qui ont fait sa célébrité. Il a gravé beaucoup de paysages montrant des ruines de l'Antiquité et a certainement joué un rôle important dans leur sauvegarde ensuite, parce que jusqu'alors, elles étaient plutôt utilisées comme carrière de pierre. Goya, un autre graveur exceptionnel qui, évidemment, était aussi un peintre de tout premier plan. Mérion, alors lui, c'était un graveur du 19e siècle qui a fait en particulier des vues de Paris exceptionnelles qui ont vraiment marqué l'histoire de la gravure. Et puis plus près de nous, voici par exemple une gravure de Picasso. Picasso était un excellent graveur qui a su utiliser des procédés différents. Le vernis mou, maintenant, c'est une variante de l'eau-forte. Mais au lieu de graver directement avec la pointe sur le vernis, on tend sur la planche une feuille de papier humide, on la tend bien. Sur la feuille figure le motif que l'on veut reproduire. On a préalablement recouvert la planche avec un vernis suffisamment mou pour que, exerçant une pression avec la pointe d'un crayon sur le papier adhère au vernis. Et quand on va le retirer, le travail étant terminé, quand on va le retirer, on a dénudé sur la planche le dessin au crayon. Et donc, quand on immerge la planche dans l'acide, c'est une eau forte, hein, quand on enlève le vernis, on obtient un effet saisissant de dessin très très proche du crayon. On a utilisé ce procédé aussi, j'en reparlerai, mais d'une manière différente, en cherchant à imiter le graphisme du crayon, en prenant des petites molettes avec des formes irrégulières, de manière à ce qu'en les faisant tourner, on pouvait donner l'impression que la planche était dessinée au crayon. Voici un exemple à nouveau de Dominique Beau, d'une gravure réalisée au vernis mou, à la manière de crayon. C'est là aussi, il a bien su utiliser ce procédé, il a bien su en tirer, mettre en évidence sa spécificité et faire des gravures remarquables. Un autre procédé qui s'apparente plus ou moins à l'eau forte, c'est l'aquatinte. Alors l'aquatinte, c'est un petit peu différent. On prend à nouveau une planche de cuivre parfaitement décapée, et puis on la saupoudre de résine, de résine en grain très, très fin, enfin plus ou moins fin d'ailleurs selon les effets que l'on veut obtenir. On chauffe, la résine adhère au cuivre, mais évidemment ce sont des micro-gouttes qui adhère à la planche avec une structure lacunaire. Et si on plonge la planche comme cela dans l'acide, l'acide va attaquer le cuivre autour des petits grains de résine. Et l'aquatinte s'utilise en fait avec, une fois que la planche est couverte de grains de résine, avec un vernis qui va être déposé sur la planche au fur et à mesure des morsures. Alors je m'explique, si on veut conserver une partie blanche sur la, non attaquée sur la planche, on la vernit avant de l'exposer à l'acide. Si l'on veut un gris clair, on expose quelque temps la planche à l'acide et puis ensuite on recouvre de vernis les planches qui doivent conserver cette teinte, ainsi de suite jusqu'à l'obtention de noirs profonds. L'aquatinte permet d'obtenir des noirs profonds. Alors voici par exemple une goélette, une gravure de navire que j'ai réalisée en utilisant ce procédé. Vous voyez que c'est assez proche comme effet de ce que l'on obtient avec la technique du lavis, donc de l'encre de Chine diluée que l'on passe au pinceau. Et puis, si vous voulez me suivre, continuer un petit peu dans l'alchimie ténébreuse de la gravure contemporaine, dans la cuisine, certains artistes utilisent ce qu'on appelle la gravure au sucre. Alors la gravure au sucre, ce n'est pas tout à fait de l'aquatinte. On utilise un sirop de sucre plus ou moins épais que l'on met sur la planche et puis là on obtient des effets un peu aléatoires que l'on peut maîtriser, varier en utilisant du vernis pour recouvrir au fil des différentes morsures la planche comme on le fait avec l'aquatinte. Alors voici quelques exemples de gravures au sucre, en particulier des gravures de Falberg qui a beaucoup utilisé ce type de procédé. Un peu dans le même genre, la gravure au soufre consiste à enduire la planche d'huile, à déposer de la fleur de soufre, à aller se coucher. On laisse la planche être tranquillement oxydée pendant la nuit. Et puis ensuite, on obtient des effets curieux, comme par exemple ici cette gravure de Déré, pour laquelle il a utilisé du soufre pour teinter la robe de son modèle. Ce que je voudrais dire, c'est que voilà, tous les moyens sont bons pour martyriser une planche, pour obtenir des matières, des effets curieux au niveau des tirages. Mais finalement, quand on regarde, qu'on réfléchit, on s'aperçoit que point n'est besoin d'une alchimie très, très complexe pour obtenir des belles choses. Alors, une technique qui est très, très différente des techniques dérivées de l'eau forte que je viens de mentionner, c'est ce qu'on appelle la manière noire. Alors, la manière noire consiste avec un berceau, c'est-à-dire un outil de forme arrondie et hérissé d'une myriade de petites pointes, à noircir complètement une planche, et puis ensuite, avec un outil lisse ou un grattoir, à ce qu'on appelle brunir la planche, c'est-à-dire en fait l'éclaircir dans les zones que l'on veut voir apparaître claires dans la composition. La manière noire aurait été inventée ou du moins popularisée en Angleterre par le prince palatin Rupert, originaire de Flandre mais qui faisait partie de la famille royale et dont la position élevée a certainement été pour beaucoup dans la familiarisation de ce procédé. Aussi un exemple d'une belle gravure du prince Rupert. Un autre exemple de Goya, alors là aussi, comme souvent savait le faire Goya, un exemple saisissant, ce colosse qui apparaît dans ce paysage où toutes les éléments, l'habitation, les personnages deviennent minuscules face à la force de ce personnage. Dominique Beau a aussi bien maîtrisé ce procédé. Voici un exemple de composition qu'il a réalisé par cette technique de manière noire. Alors, un procédé qui n'est pas vraiment de la gravure, mais qu'on cite souvent lorsque l'on parle de gravure, c'est le monotype. Le monotype, ce n'est pas de la gravure dans la mesure où on ne grave pas la planche que l'on utilise, mais on utilise une planche, on utilise de l'encre d'imprimerie, et l'artiste compose un motif sur cette planche, et ensuite un imprimeur un peu habile sait en tirer deux ou trois épreuves à peu près lisibles. Voici un exemple de gravure que j'ai réalisé d'un même motif en utilisant plusieurs procédés différents. Vous avez le procédé de l'aquatinte, vous avez le procédé de la manière noire, et puis celui de l'eau forte. Comme vous voyez, les aspects, les effets des différents motifs traités ainsi sont très très différents. Et chaque procédé permet d'obtenir des effets différents. Finalement, ce qui est très très attachant, très particulier, très spécifique de la gravure, c'est que c'est en quelque sorte du dessin avec une dimension supplémentaire. Quelle est cette dimension? Eh bien, c'est tout simplement la profondeur des tailles. La profondeur des tailles avec les presses de taille douce qui permettent d'aller chercher l'encre qui se cache au fond des tailles, permet d'obtenir des effets, une matière, une perfection des réalisations qu'il est difficile d'atteindre avec des dessins. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de beaux dessins, bien entendu. Au XIXe siècle, s'est fait sentir le besoin d'avoir un procédé beaucoup plus performant que ce que l'on connaissait jusqu'alors pour faire toutes les reproductions que demandait un public de plus en plus avisé qui voulait être au courant de tout, de l'actualité, de ce qui se faisait comme œuvre d'art, etc. Et alors là, on a inventé la gravure sur bois. Je ne plaisante pas. Il s'agit du bois debout. Alors, qu'est-ce que c'est que le bois debout? Le bois classique consiste à utiliser du bois généralement fruitier, dans le sens du fil. Mais évidemment, avec l'hétérogénéité du bois, de son fil, on n'arrive pas toujours à avoir la finesse que l'on souhaiterait. Le bois debout consiste à utiliser du bois, mais taillé transversalement. Ainsi, on a les fibres du bois qui sont perpendiculaires au plan que l'on grave, et quand on choisit des essences particulièrement denses, fines, résistantes, on arrive à obtenir une perfection technique irremplaçable, inégalée. Et le bois debout présente les deux avantages de la gravure sur bois. Premièrement, avec l'épaisseur des caractères de typographie, on peut imprimer illustration et texte en même temps. Et deuxièmement, ça... résistance fait qu'on peut tirer un très très grand nombre d'exemplaires lorsque la planche est convenablement gravée. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'habitude on utilise du buis, je crois qu'on allait en chercher en Turquie, on taillait des petits cubes que l'on collait les uns aux autres pour avoir des planches suffisantes. Le buis n'est effectivement pas un arbre qui offre des quantités de bois très importantes, et donc on coller ces petits cubes de bois les uns aux autres, et ensuite avec des techniques, avec des outils proches de ceux utilisés pour le burin, eh bien on grave les zones, on évide les zones qui doivent devenir blanches à l'impression. Alors je voudrais vous montrer quelques exemples d'impression au bois debout qui ont été vraiment très très utilisés dans la partie centrale du XIXe siècle. Voici tous les livres illustrés de l'époque, où pratiquement tous étaient réalisés ainsi. Alors voilà par exemple un album de chansons qu'on vendait pour les enfants, ou bien un manuel d'histoire d'histoire du XIXe siècle, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Et puis l'artiste qui a vraiment utilisé et porté à son sommet ce type d'impression, c'est Gustave Doré. Gustave Doré qui a été un dessinateur extrêmement fécond, qui avait pris l'habitude de travailler avec un certain nombre d'artisans de très grande qualité, très spécialisés, se contentait souvent d'indiquer sur un lavis très lâche l'illustration qu'il voulait graver, et puis à charge ensuite pour ses artisans de compléter l'illustration et de permettre à Gustave Doré d'avoir une production absolument incroyable. Et puis est arrivée la lithographie. C'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique, la lithographie en réalité est arrivée à la fin du XVIIIe siècle. La lithographie, a été curieusement inventée par un certain Alois Senefelder, qui était un Bavarois qui habitait dans la région de Munich, et Lisard, qui baigne la région. Sur les bords de l'Isard, on trouve des pierres calcaires aux grains très très fins de toute beauté. Et Alois Senefelder, qui était très très entreprenant, qui avait beaucoup d'idées, s'était dit que pour imprimer ses œuvres, pour arriver à les diffuser à moindre coût, il pouvait peut-être essayer d'utiliser les pierres de la vallée de l'Isard. Alois Senefelder était un auteur dramatique, il paraît d'un talent assez modéré, je ne sais pas, je n'ai jamais rien lu de lui. Il est né en 1772 et il a donc écrit ses textes sur des pierres, sur ces belles pierres calcaires. Il les a immergées dans l'acide, voulant ainsi creuser la planche, creuser la pierre au droit des zones qu'il avait écrites. Et puis, ça ne marchait pas très bien, en fait. La pierre était un peu rétive et même s'il utilisait des acides un peu forts, la pierre ne voulait pas se creuser. Mais comme il était extrêmement observateur, il s'est aperçu qu'il n'était pas besoin, que point n'était besoin de creuser la pierre, en fait, pour l'imprimer. Que, curieusement, les parties de la pierre qui étaient protégées par l'encre ou par le dessin allaient retenir l'encre, et que les parties qui n'avaient pas été dessinées étaient imperméabilisées par l'action de l'acide et allaient rester blanches à l'impression. La lithographie était née, qui a mis un certain temps à intéresser les artistes, mais à nouveau, nous allons citer un artiste dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Goya. Goya qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à la lithographie en publiant ses quatre scènes de tauromachie qui ont marqué les esprits au début du XIXe siècle et donné des idées à un peu tous les grands artistes romantiques, à commencer par Delacroix, Géricault, Isabey, etc. Et puis, un petit peu plus tard, un autre grand artiste a beaucoup utilisé ce procédé avec un rare talent, une connotation un peu humoristique souvent. Il s'agit de Daumier qui a vraiment porté à son sommet ce procédé. Alors, nous arrivons maintenant à la gravure en couleur. Bien entendu, ça a toujours été le rêve des graveurs de maîtriser la couleur. C'est en fait, là aussi, au niveau du principe, quelque chose d'assez simple. Il suffit de superposer l'impression de plusieurs planches ancrées avec des couleurs différentes. Oui, mais d'abord, bien entendu, il y a un problème élémentaire de repérage de l'épreuve. Il faut que chacune des planches soit bien repérée et soit imprimée pile à l'endroit qu'il faut. Et puis, il y a un problème économique. C'est-à-dire que si on utilise un procédé comme le burin, qui est très long, très ouvrageux, ça va conduire à des coûts absolument insupportables de faire des gravures en couleur. Et donc, on a cherché à avoir des procédés qui permettaient de réaliser des surfaces, des plans importants à moindre coût. La première idée qu'on a eue, de façon très très ancienne, hein, c'est de superposer des bois ancrés avec des couleurs différentes. Alors voici un exemple de gravure ancienne de Hans Baldung Grün, un artiste du XVIe siècle qui a fait quelques gravures en camaïeu, ici des sorcières terrifiantes. Ensuite, au XVIIIe siècle, un artiste comme De Marteau, qui travaillait dans l'équipe chargée de diffuser les œuvres de Boucher, De Marteau a utilisé l'eau-forte un peu à la manière de crayon avec des petites molettes. Et voici un ravissant portrait réalisé par De Marteau. Mais la gravure en couleur a demandé des procédés qui étaient plus faciles à mettre en œuvre. Et il y en a deux qui ont émergé. Le premier, c'est en France l'aquatinte. L'aquatinte a été mis au point avec les travaux d'un certain Leprince et ensuite utilisé par un grand artiste, Louis-Philibert de Bucourt. Voici une gravure en couleur de Louis-Philibert de Bucourt utilisant ce procédé de l'aquatinte. Alors, il y a une façon un peu, je dirais, un peu simpliste, un peu bestiale de faire de la couleur, c'est tout simplement de prendre une seule planche. Alors, voici un exemple de gravure sur bois de Jean Delpech. Et puis de donner un modèle à l'imprimeur et puis de lui dire, ben voilà, tu mets un petit peu de jaune ici, un peu de bleu là, un peu de rouge là, sur la même planche, et de le tirer. Alors effectivement, ça donne des gravures en couleur, mais enfin, ça donne pas des travaux très, très achevés, très élaborés. Et puis finalement, on se demande un peu si c'est l'œuvre du graveur ou si c'est l'œuvre de l'imprimeur. Un autre exemple, un contreplaqué gravé par Fiorini, un autre exemple de gravure de planches utilisées en multicolore, en plusieurs couleurs. D'autres artistes, eux, gravent des planches qui sont imprimées avec leur propre couleur. Alors voici quelques exemples. D'une artiste japonaise, Minami, qui faisait des compositions. Alors, je vous montre cet exemple parce que on distingue bien, en regardant de façon un peu attentive cette illustration, on distingue bien la superposition des différentes planches. Un autre artiste, Berry, qui a également utilisé pas mal la gravure en couleur. Et pour terminer ce petit mot sur la gravure en couleur, je voudrais vous montrer. Je ne crois pas que la reproduction soit d'une grande qualité. Je voudrais vous montrer une affiche, comme on en réalisait au début du XXe siècle, où pour obtenir les effets que l'on voulait, c'était des affiches qui étaient réalisées en utilisant la lithographie, mais en superposant un grand nombre de planches de couleurs différentes. Je crois que dans certaines impressions de très haut niveau, de très bonne qualité, ou du moins qui cherchait à l'être, on est arrivé jusqu'à une dizaine, une douzaine de planches dont on superposait l'impression. Pour terminer ce petit tour d'horizon gravure, ou procédé de gravure plus exactement, permettez-moi de vous présenter quelques travaux que j'ai réalisés moi-même. La goélette d'abord que je vous ai déjà présentée pour illustrer le procédé de l'aquatinte, c'est ce procédé que j'ai pratiqué au début de ma carrière de graveur. Les petits pois, c'est aussi une gravure à l'aquatinte, extraite d'une série de gravures un peu cocasses. J'ai toujours aimé les sujets un peu cocasses, un peu surréalistes, un peu oniriques, plutôt que purement réalistes. J'ai pas mal travaillé aussi pour mon cher ami, le maître ferronnier Joël Hollande. Voici un exemple de tête en fer forgé. J'ai essayé de rendre la matière du fer forgé en utilisant l'aquatinte. Et puis ensuite, j'ai utilisé davantage l'eau forte, comme pour cette Madone ou ce volcan. Et puis petit à petit, en corrigeant mes eaux fortes, j'ai commencé à maîtriser le maniement du burin. J'ai utilisé ce procédé de plus en plus pour les gravures plus récentes. Alors voici quelques autres exemples. Hurlevent, par exemple, avant le déluge, une assez grande planche un peu complexe où il y a un peu d'eau forte, mais beaucoup de burin. D'autres petites planches, à nouveau des incongruités, avec ici un escargot, porte-clés ou bébé à l'huile, les ciseaux, les poupées, la pose, et puis deux grandes compositions plus récentes, la clé des songes. Alors là, c'est burin et un petit peu de pointe sèche pour les fonds. Vous voyez qu'on a des fonds très, très grisés, et le travail au burin se détache bien au premier plan et bien plus contrasté. Et puis, une gravure que j'ai réalisée en 2018 qui montre le portail Saint-Étienne, le portail sud de Notre-Dame, vu de la rue du Haut-Pavé, avec une évocation dans mon esprit de la spiritualité dans la cité. Et puis, une gravure, hélas, prémonitoire, qui le 15 avril 2019 s'est transformée en triste souvenir avec la disparition de la flèche.